Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel, et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. » Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangea du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Amen. Le titre de ce message, c'est « Notre droit d'aînesse ». Et on va y revenir dans quelques instants. Avant, ce serait peut-être opportun de voir le contexte de ce passage, même si je sais que vous êtes accoutumés, habitués à lire la parole. Ces enfants-là sont vraiment la continuité d'une promesse extraordinaire que Dieu a fait à Abraham. On le sait, c'est dans la parole de Dieu. Ils étaient là pour poursuivre. Il y avait ce fardeau, on pourrait dire, familial, mais également cette pensée. Lorsque les enfants vont venir, ils vont prendre, ils vont continuer, ils avaient une responsabilité. Et on comprend pourquoi Isaac va implorer Dieu. Isaac, on se souvient, il était quand même à côté d'Abraham lorsque Abraham avait son couteau. Isaac connaissait quand même Dieu. Il savait que ce qu'il promet, il peut l'accomplir. Et c'est pour cela, je pense, qu'il était dans la prière et qu'il ne pouvait en être autrement que si Dieu avait fait une promesse, il était tout puissant pour pouvoir l'accomplir. Et voilà que ces deux enfants naissent. Et ces deux enfants, parmi les deux, le plus grand, habituellement, devait avoir la responsabilité spirituelle de la famille à la mort du père. Et c'était Ésaü. Il y avait vraiment cela sur sa vie. C'était marqué, c'était institué. Il devait vraiment se saisir des promesses. Il devait se saisir de ce à quoi Dieu l'appelait. Il devait se saisir de la parole de Dieu, comme nous, d'ailleurs. Nous aussi, nous avons la parole, nous avons des promesses, et il est évident que pour rentrer dans un chemin, dans un plan de bénédiction, nous devons être attentifs à ce que Dieu veut, comprendre que Dieu est tout-puissant pour nous accompagner, comprendre que si Dieu nous promet quelque chose, nous dit quelque chose, nous devons nous y attendre à ses promesses. Nous ne sommes pas les enfants d'un Dieu lointain, d'un Dieu qui nous abandonne. Et si nous sommes là ce soir, si nous avons passé du temps dans la prière, c'est parce que nous avons confiance et foi en Dieu. Si vous êtes venu après, c'est parce que vous voulez que Dieu vous parle, qu'il vous donne une direction, vous voulez apprendre à le connaître. Et c'est ainsi que font les enfants de Dieu, nous qui sommes chrétiens, et c'est ainsi que devaient faire les enfants. Mais le problème, c'est que ça ne s'est pas passé comme ça. Et on a l'habitude de voir Jacob d'une certaine manière, de voir Ésaü d'une certaine manière, mais nous l'avons vu ensemble lorsque Rebecca était enceinte, lorsqu'il se passait quelque chose, elle est allée consulter Dieu, et c'est Dieu d'abord qui va dire, voilà, il y a deux nations dans ton sein, et le plus grand sera assujetti au plus petit. C'est Dieu qui a donné ça. C'est Dieu qui a communiqué ça aux parents. Et les parents devaient avoir conscience de cela. Et peut-être que c'était communiqué aux enfants, on ne sait pas. En tout cas, voilà la vie d'Ésaü. Et on va s'attarder un petit peu sur la vie d'Ésaü pour voir qu'est-ce qu'il y a eu dans sa vie, qu'est-ce qui a fait que... Parce que nous lisons l'histoire, nous voyons la finalité. En plus, on a longuement et on aime quelquefois parler de Jacob, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément un exemple de stabilité dans la vie chrétienne. C'est quelqu'un qui a une vie en dents de scie, toujours est-il qu'il avait, et on le voit, un attachement, un amour pour les choses de Dieu, un intérêt, il donnait de la valeur aux promesses de Dieu, et c'est ce qui va faire toute la différence. Savoir qui nous suivons pour tenir dans le temps. Parce que vous voyez, Ésaü, peut-être qu'il savait les promesses, il connaissait, il savait, il avait peut-être une connaissance intellectuelle de qui était Dieu, mais on voit que dans le temps, ça ne tient pas. On voit que peut-être lorsqu'il y a des tempêtes, ça ne tient pas de connaître d'une manière intellectuelle le Seigneur. Plusieurs ici, on pourrait lever la main en disant « mais je me suis fait piéger, j'ai cru que je connaissais Dieu, mais je le connaissais avec mon intelligence, avec ma réflexion, mais je ne le connaissais pas personnellement, mon cœur n'était pas attaché au Seigneur. » Et c'est ainsi que lorsque vient la tempête, lorsque viennent des situations qui ne sont pas prévues, alors on vacille. Alors on vacille. Il y a ce texte dans le Deutéronome qu'on connaît bien, chapitre 8, où Dieu nous parle, où Dieu nous montre que quelquefois il y a des épreuves, des tempêtes qui sont prévues dans notre vie parce que Dieu veut voir comment est-ce qu'on se comporte et quelle va être notre réaction face à ce qui se passe. Est-ce qu'on reste attaché à Dieu ou est-ce qu'on ne reste pas attaché à Dieu? Et je dis tout ça parce que dans la vie d'Ésaü, c'était quand même prédominant. La Bible, vous savez, va donner quelques caractéristiques d'Ésaü. On pourrait dire aujourd'hui, il va nous donner son CV, son curriculum, sa vision spirituelle. La Bible nous parle d'Ésaü comme un homme qui est habile, comme quelqu'un qui aime la chasse, comme un homme qui parcourt les champs. Et c'est peut-être ça le problème dans la vie d'Ésaü. Et c'est peut-être ça aussi, quelquefois, notre propre problème dans notre existence, parce que connaître les promesses, c'est génial. Connaître ce que Dieu veut pour notre vie, merci Seigneur. Connaître la direction, c'est extraordinaire. Connaître la fidélité de Dieu, merci Seigneur. Mais tous les jours, rester attaché à ça, quand il y a des difficultés, quand il y a des tempêtes, quand il y a des moments qui sont incontrôlables dans notre vie, quand il y a des moments où il semblerait, je dis bien il semblerait, que la barque commence à partir longuement à la dérive, qu'on n'arrive plus à peut-être sortir l'eau de la barque. Est-ce que nous avons le même attachement à Dieu? Est-ce que les promesses ont le même impact dans notre vie? Ésaü était un homme des champs. Une autre version nous dit que Ésaü était un chasseur expérimenté qui courait la campagne. Et ça, c'est vraiment un problème dans notre vie spirituelle, parce que vous comprenez bien que si, en tant que chrétien, nous courons la campagne, on parcourt les champs, on traverse les champs, notre manière de vivre et de fonctionner se passe plus dans les champs que dans l'Église, se passe plus dans le monde que dans l'Église. Et quand je dis l'Église, il ne s'agit pas du bâtiment, mais de notre attachement à Christ. Où est notre fondement? Où est cette accroche, cette ancre sûre et solide? Où est ce qui va nous tenir lorsque nous allons rentrer fatigués? Monsieur Go a déjà parlé, abordé, et je pense que c'est un thème qui est tellement actuel, la fatigue. Et au risque de me répéter, parce que quand même, on lit ce texte, on se dit, mais oui, Isaac, il connaissait la parole de Dieu, la promesse, il connaissait tout ça. Est-ce qu'il n'aurait pas pu communiquer ça à ses enfants? Quand bien même il y avait cette parole de l'Éternel que le plus grand serait assujetti au plus petit, est-ce que de toute manière dans le royaume de Dieu, Dans le royaume de Dieu, ne sommes-nous tous pas égaux? Nous avons part à la même bénédiction. Et si mon frère a une responsabilité, c'est une bénédiction pour lui, mais Dieu nous aime du même amour. Simplement, voilà, Ésaü, parce qu'il était habitué à parcourir les champs, parce qu'il était habitué à chasser, parce qu'il était habitué peut-être à chercher des forces, une raison de vivre qui n'était pas dans la parole de Dieu, qui pour nous chrétiens, notre raison de vivre, si ce n'est pas Christ, alors il y arrivera un moment donné où on va pouvoir rentrer fatigué. D'autres versions vont pouvoir dire « accablé de fatigue ». Et la version, le sens littéral de « accablé de fatigue », c'est « desséché ». Et peut-être là, vous voyez où je veux en arriver. Faible, las, et peut-être, et ça m'est arrivé, ça peut nous arriver, de se retrouver dans notre vie chrétienne parce qu'on s'est épuisé. On s'est épuisé à essayer de combler une absence de piété par autre chose, où on a essayé, de peut-être par nos propres efforts, de gagner un tel, un ami, un membre de notre famille, où on a essayé, dans les champs de ce monde, de faire l'œuvre de Dieu, mais peut-être avec nos propres forces, d'une manière charnelle, on va dire. Alors il arrive un moment où peut-être la fatigue nous gagne, et on n'a pas su puiser l'énergie. On n'a pas su puiser la force en Dieu et on est desséché, on est las. Et c'est là où ça devient dangereux pour nous. Et c'est là où il y en a un peut-être qui attend que ça, qu'on se retrouve desséché, qu'on se retrouve las. Et la signification de desséché, c'est en manque d'eau. En manque d'eau de cette source vive qui émane de Christ. Et c'est ce qui va arriver, et c'est ce qui va amener Ésaü, peut-être, à accepter cette offre de Jacob. Parce que Jacob, et peut-être là, vous n'allez pas être d'accord avec moi dans ce que je vais dire, mais je prends le risque. Parce que Jacob, c'est vrai qu'il est particulier, quand on voit sa vie, quand on le retrouve dans les héros de la foi, c'est peut-être compliqué. Mais on voit qu'il a une manière de vivre différente. On voit qu'il a un attachement différent. On voit que dans sa manière de réagir, il va être différent. Et c'est cette différence peut-être qui va nous intéresser. Quand Ésaü se présente à Jacob, on voit qu'il est fatigué, on l'a partagé. On voit que là, il y avait une difficulté, on voit que là, il n'a pas su répondre, et il va accepter une offre. Et pourquoi j'ai donné ce titre à ce message? Parce que peut-être que nous devons considérer notre droit d'aînesse, notre droit en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons considérer que Dieu a mis sur notre vie un sceau particulier. Nous devons peut-être considérer, parce que ça peut arriver qu'on arrive, et ça peut arriver qu'on soit tenté de dire « mais je vais vendre ce que j'ai, je vais donner ce que j'ai de plus précieux pour le monde, et on y reviendra ». Parce que finalement, ce que Ésaü a fait à Jacob, ça reviendrait à dire « mais à quoi ça me sert la bénédiction ? À quoi ça me sert l'espérance ? À quoi ça me sert la paix de Dieu? À quoi ça me sert ce que Dieu peut me donner si aujourd'hui je n'arrive pas à me saisir de sa vie? À quoi ça me sert? Laisse-moi manger, je te prie. Laisse-moi retrouver des forces auprès de toi, Jacob. Laisse-moi, donne-moi cela parce que je suis épuisé, je suis desséché. Et combien de chrétiens arrivent à faire un compromis? Combien de chrétiens arrivent dans leur vie spirituelle à baisser les bras? Et en tout cas, si nous sommes là, c'est qu'on ne veut pas. Mais ça peut tellement vite arriver où on se dit, mais finalement, c'est je perds pied, je n'ai plus la vision de Dieu, je n'ai plus la pensée de Dieu pour ma vie. Je n'ai plus que ce que Dieu m'a dit. Je n'arrive plus à me saisir des promesses. Alors je suis dans le flou. Je suis dans le flou. Aujourd'hui, Seigneur, donne-moi aujourd'hui. Donne-moi une réponse maintenant. À quoi me sert tes promesses pour demain si aujourd'hui je n'arrive pas à être rétabli dans ma vie ? 1 Corinthiens nous dit, chapitre 15, verset 32, « Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu, quel avantage m'en revient-il ? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Et ce qui peut être difficile, dangereux en tant que chrétien, dans notre marche chrétienne, c'est de perdre cette perspective. C'est de perdre que notre marche chrétienne, de perdre de vue que notre marche chrétienne n'est pas basée sur une vision humaine, mais une vision spirituelle de Dieu. N'est pas basée sur ce qu'on peut ressentir, nos sentiments, en disant « Seigneur, mais c'est vrai, j'ai des promesses, c'est vrai, Seigneur, tu m'aimes, mais aujourd'hui je n'arrive pas à voir ton amour. » C'est d'arriver à cette maturité spirituelle où nous comprenons que nous avons tous un droit d'aînesse, nous avons tous part à la bénédiction, nous avons tous une responsabilité spirituelle, nous avons tous un regard de paix et d'amour de la part de notre Dieu sur notre vie pour que nous puissions continuer, pour que nous puissions marcher, pour que nous puissions faire face à une quelconque fatigue, à une quelconque tempête qui vienne. Si c'est dans des vues humaines, alors effectivement, on s'épuise. Mais si c'est basé sur la parole, dans une vision spirituelle, alors je pense que nous pouvons tous arriver à nous récupérer. Est-ce que quelquefois ça ne nous est pas arrivé ? Est-ce que quelquefois nous n'avons pas envie de vendre, et peut-être c'est difficile ce que je vais dire, de vendre nos bénédictions, de vendre notre héritage céleste ? De vendre notre piété pour un plat du monde, pour être apaisé dans le monde. Est-ce que ça ne nous est pas arrivé de vendre peut-être un temps de notre intimité avec Dieu pour se relâcher, pour faire mille et une choses auxquelles on sait que Dieu n'est peut-être pas d'accord ou Dieu n'est pas en priorité et ainsi on s'aperçoit que notre droit d'aînesse n'est plus la chose la plus importante. Et Ésaü qui était là, et peut-être lorsqu'on lit ce texte, on se dit « Ah, mais Ésaü, il a pas peut-être, il n'était pas sérieux, même si c'est vrai. » Est-ce que quelquefois ça ne nous arrive pas ? Est-ce que quelquefois on n'est pas là en train de se dire, ou en train d'expérimenter que nous aussi, on vend notre droit d'aînesse, notre communion, notre piété, notre attachement à Dieu ? En tout cas, c'est ce que Jacob, lui, c'est pas ce qu'il a fait. Et c'est là où tout à l'heure, je dis que peut-être vous ne serez pas d'accord avec ce que je vais dire. Mais c'est pas grave, je prends quand même le risque. Parce que Jacob, vous savez tout ce que ça veut dire. Celui qui supplante. On le sait, on voit sa vie, ça nous exprime vraiment cela. Mais la Bible, vous avez vu, lorsqu'elle nous a marqué le curriculum vitae d'Ésaü, c'était d'une certaine manière et on l'a partagé ensemble. Mais pour Jacob, il nous est dit que c'était un homme tranquille qui reste sous les tentes. Alors nous, on lit ça et on se dit, bon ben voilà, c'est Jacob, on a l'impression qu'on l'a toujours connu, on a l'impression qu'on est habitué à le voir comme ça. Mais la traduction du mot « tranquille » est un peu particulière et la version David Martin l'a bien retranscrit. On pourrait lire, et peut-être parmi nous ce soir, il y a des personnes qui ont cette version-là, on pourrait lire « Jacob était un homme intègre et se tenant dans les tentes ». Et c'est la traduction littérale de « tranquille », ce que nous on prend parce qu'on a une réflexion, on a un langage moderne et lorsqu'on lit tranquille, on se dit, ben voilà, il aimait ne rien faire. Peut-être c'était vrai. Mais au niveau spirituel, peut-être que ça nous fait comprendre Et si peut-être vous n'êtes pas d'accord avec cette traduction, avec cette manière de voir les Écritures, peut-être du moins pour nous, dans notre propre vie, ça doit nous enseigner. Parce que Jacob, quand bien même on peut se dire qu'il était charnel, qu'il n'était pas toujours droit, et c'est vrai, il y a quand même cette réalité spirituelle dans sa vie. Et c'est là peut-être où je veux en venir ce soir. Cette réalité spirituelle où il était dit, où on peut comprendre qu'il était intègre, qu'il avait son cœur entier pour Dieu. Son cœur peut-être s'était attaché parce qu'il connaissait la promesse. Et peut-être que nous aussi, si quelquefois on ressent plus à Ésaü, est-ce que quelquefois on ne pourrait pas se dire « Mais moi je veux être intègre, moi je veux m'attacher à Dieu, je veux m'attacher à sa parole, parce que je sais que Dieu ne va pas me mentir, qu'il ne va pas me tromper, qu'il ne va pas me faire du mal, qu'il ne va pas outrepasser mon identité, mon caractère dans ce que je suis. » Et la deuxième phrase qui caractérise Jacob, c'est là où peut-être vous allez être encore moins d'accord avec moi, c'est lorsqu'il est écrit « se tenant dans les tentes ». Il reste sous la tente. Et il y a un passage dans la parole de Dieu, c'est dans Exode, je le lis pour vous, parce que moi ça m'a fait penser à cela. Et je me suis dit « mais peut-être que c'était ça qu'il y avait dans le cœur de Jacob. En tout cas, dans notre cœur, je pense que c'est ce qu'il doit y avoir. On connaît, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Et ça, dans notre vie, c'est ce qui peut faire toute la différence. C'est ce qui peut nous aider à garder notre droit d'aînesse, à ne pas tomber dans le piège d'Ésaü, pour ne pas le vendre pour un plat de lentilles, à ne pas le vendre, à ne pas le mépriser, parce que c'est ça a la valeur du prix du sacrifice de Jésus-Christ. L'approbation de Dieu sur notre vie, ça a le prix de Christ. C'est au prix de son sang, c'est au prix de son sacrifice, de la croix. Et nous devons aimer sa présence. Nous devons comprendre que dans notre vie, ce qui va faire la différence, c'est pas d'avoir toujours la même place dans la salle. C'est pas d'avoir réservé notre chaise. C'est pas de lire machinalement la parole, de ne pas réciter. C'est de prendre l'intimité que Dieu veut nous donner. C'est de saisir l'amour de Dieu pour notre vie. C'est de comprendre que, oui, aujourd'hui, plus que jamais, il y a des difficultés, il y a des choses difficiles qui sont devant nous, dans nos familles. Ce soir, on pourrait tous parler, partager en disant « mais dans ma famille, c'est difficile, autour de moi, c'est difficile, les gens se meurent, les gens sont tristes, dans ma famille, je suis rejeté, je suis persécuté. » Et ce qui fait que l'on puisse être attaché à notre droit d'aînesse spirituel, aux promesses de Dieu. C'est ça notre droit d'aînesse, c'est les promesses de Dieu sur notre vie, c'est l'approbation de Dieu. C'est le fait que nous pouvons avoir cette assurance que Jésus-Christ est avec nous tous les jours de notre vie. Et ce qui nous fait voir la vraie valeur de ça, c'est pas le monde, c'est pas le champ, c'est de comprendre que il y a une force, une puissance, un amour dans l'intimité que nous pouvons avoir avec Dieu. C'est de comprendre qu'on doit rester intègre. C'est de comprendre qu'il n'y a pas la place au compromis dans notre vie chrétienne. Il n'y a pas la place au péché. Il n'y a pas la place à des choses qui peuvent venir comme pour voler ce que Dieu veut nous donner. Il y avait des promesses et Jacob avait compris cela. Ça va se retrouver, vous savez, et je ne veux pas me faire le défenseur de Jacob ce soir parce que je suis d'accord pour dire qu'il est charnel, il a trompé, il s'est fait tromper, il a souffert, ça a été difficile pour lui, ça a été compliqué sa vie, il le dira. Mais quand il va se retrouver avec l'ange, qu'à un moment donné dans sa vie, il va comprendre que là, c'est un moment tellement important. Il va pouvoir dire, mais je ne vais pas te laisser aller tant que tu m'es béni. Il va comprendre, il va se rappeler, il va y avoir cet attachement, il va comprendre que le droit d'aînesse, c'est quelque chose, quelquefois, qui mérite un combat, qui mérite des temps dans la prière, qui mérite des choses qui vont peut-être nous marquer à vie, parce qu'il va être marqué. La Bible nous dit qu'il va s'appuyer sur son bâton, par la foi. Il va boiter, c'est des choses qui peuvent nous faire boiter, mais il y a quand même cette vision, cette réalité spirituelle. C'est que Jacob avait compris que le plus important, ce qui surpasse tout dans notre existence, c'est pas d'avoir un plat de lentilles, c'est pas d'être bien, c'est pas d'avoir ceci ou d'avoir cela, c'est d'avoir, et pour nous qui sommes aujourd'hui dans la nouvelle alliance, je vais le dire de cette manière, c'est d'avoir Christ. C'est d'avoir Jésus-Christ. C'est de marcher dans ce monde en faisant la différence. C'est de ne pas être reconnu des autres en disant « Ah mais toi, tantôt tu nous parles de Jésus, tantôt tu fais comme nous. » C'est de ne pas croiser peut-être des collègues de travail qui vont nous dire « Ah mais des fois, tu m'as l'air tellement bien et d'autres fois, tu te plais avec nous. » Mais ce qui fait la différence, c'est de comprendre que on est marqué par Christ. On est marqué par lui parce qu'il a souffert pour nous, pour que nous puissions comprendre qu'il y a encore des promesses à se saisir, des promesses pour nos familles, des promesses pour nos voisins, pour nos collègues de travail, qu'il y a encore des promesses à voir s'accomplir. On peut, nous sommes une génération aujourd'hui où nous pouvons aspirer à voir des miracles et des prodiges. Ou est-ce que nous pouvons dire, comme Gédéon l'a dit à un moment donné dans sa vie, mais où est le Dieu de nos pères? Comme Gédéon l'a fait peut-être en train d'abandonner notre droit d'aînesse parce que nous sommes dans une période tellement difficile. Je pense que nous sommes dans une génération où nous pouvons encore dire, Seigneur, nous avons le droit au Saint-Esprit, nous avons le droit au baptême de l'Esprit, nous avons le droit encore à voir des malades être guéris, nous avons le droit de voir des personnes qui sont liées, possédées, être délivrées, parce que c'est ça notre droit d'aînesse. C'est ça la continuité du ministère de Jésus-Christ qui s'accomplit dans notre vie par le Saint-Esprit. Soyons intègres, aimons la présence de Dieu, aimons la parole, aimons la prière, aimons chanter des cantiques spirituels qui nous rappellent, qui nous rapprochent de Dieu, qui nous rappellent que si nous, nous sommes faibles, si nous, nous n'avons rien à apporter à Dieu, Dieu le sait. Dieu le sait, mais c'est ça la grâce. C'est que nous, on ne méritait rien et que Dieu nous a tout donné. Et la grâce, ce n'est pas uniquement pour le jour de notre conversion. La grâce de Dieu ne s'est pas manifestée uniquement pour que nous puissions passer des ténèbres à la lumière. La grâce de Dieu se manifeste tous les jours de notre existence. La fin de la vie de Jacob est intéressante. Ça va, vous êtes d'accord avec moi sur Jacob ? Un peu. La fin de la vie de Jacob est intéressante parce que on voit vraiment une approbation de Dieu. On voit vraiment qu'il a compris. Il a compris ses erreurs. C'est plus le même Jacob. Parce qu'il va faire des choses qu'il aurait pu faire dès le début. Et ce qu'il n'a pas réussi à faire dès le début, vous voyez, Dieu ne va pas lui dire « mais c'est tant pis pour toi ». Dieu va lui permettre de l'accomplir à la fin de sa vie. Et ça, c'est extraordinaire. Mais avant, j'aimerais juste revenir sur ce passage. Je le lis pour vous, c'est dans Genèse 47, où il nous est dit que Joseph va ramener sa famille, vous le savez, en Égypte, et il va faire venir Jacob pour le présenter à Pharaon. Et il y a juste ces quelques mots, ces quatre mots, qui font toute la différence dans sa vie. Il est écrit que Jacob va bénir Pharaon. Et c'est important parce que dans Hébreux, il nous est dit que c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. C'est plus le même Jacob. C'est un Jacob qui a l'autorité de Dieu dans sa vie. Et c'est ce que nous, nous sommes appelés à faire. C'est, on pourrait dire, c'est quelque part, et entre autres, pas que ça, la matérialisation de notre droit d'aînesse, c'est de bénir les autres. Parce que c'est nous qui avons la parole de bénédiction. C'est nous qui pouvons apporter la vie. C'est nous qui pouvons faire la différence. Et c'est ce que Jacob va faire à Pharaon. Il va apporter la différence. Il va bénir Jacob. Mais ce qui m'a marqué, et je terminerai presque avec ça, ce qui est marquant, et peut-être c'est pour quelqu'un ce soir, je ne sais pas, je l'ai dit, Dieu va lui permettre d'accomplir quelque chose qu'il n'a pas pu faire au début de sa vie. Parce qu'on l'a lu ensemble, lorsque Dieu a donné cette parole en disant « mais deux nations sont dans ton sein », le plus grand sera assujetti au plus petit. Jacob aurait pu parler à ses enfants. Et pour reprendre le texte, pour que vous puissiez voir où je veux en arriver, il aurait pu croiser ses bras pour imposer les mains à ses enfants. Il aurait pu. Il aurait pu si le plus grand était sur sa droite et le plus petit sur sa gauche. Comme c'était de coutume, Jacob aurait pu leur dire « Mais voilà, mes fils, c'est ainsi que Dieu l'a voulu, Ésaü, le droit d'aînesse n'est pas pour toi. Toi, tu vas être assujetti. » Ça aurait pu, mais il ne l'a pas fait. Isaac, vous l'avez compris. Ça aurait pu se passer comme ça. Et ce que Jacob n'a pas vu faire dans sa vie, ce que Jacob n'a pas vu se réaliser, il va pouvoir le faire à la fin de sa vie. Et c'est dans Genèse 48, on va le lire ensemble. C'est ce que lui n'a pas vu. Et Dieu va lui permettre. Nous avons un Dieu qui nous permet de racheter le temps. Nous avons un Dieu qui rend les années que les sauterelles, que le Gélec a dévorées. Nous lisons le verset 18, Genèse 48, verset 18. « Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né, pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit « Je le sais mon fils, je le sais, lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Et peut-être pour encourager quelqu'un ce soir, quand on lit ce texte, on se dit « bah, c'est bien, ça a été ainsi ». Vous voyez, il y a des fois dans notre vie, pour peut-être faire le lien avec notre droit d'aînesse, il semblerait qu'on loupe le coche, qu'on se dise « mais voilà, peut-être pour un plat du monde, parce qu'il y a eu une épreuve, j'ai méprisé le droit d'aînesse, j'ai méprisé la bénédiction ». J'ai méprisé les promesses. J'ai méprisé ce que Dieu me demandait. J'ai méprisé peut-être la volonté de Dieu. On pourrait tous peut-être ce soir dire, mais voilà, c'est vrai, dans ma vie, j'ai méprisé ceci, cela. Mais et je le dis et je le répète parce que c'est le cœur de Dieu pour ses enfants. Ce que les occasions, notre caractère, notre mentalité, ne nous a pas permis de faire à un moment donné. Si on revient de tout notre cœur, si on a vraiment cette repentance, si on s'humilie, si on comprend que la bénédiction ne vient que de Dieu, Dieu va pouvoir mettre en place des circonstances pour qu'on puisse accomplir ce qu'il nous avait demandé, pour qu'on puisse accomplir ce qu'à un moment donné, dans notre vie, nous avons peut-être raté, loupé. Jacob aurait pu voir cela. Il aurait pu refuser le droit d'aînesse de cette manière-là, dont il a eu, en disant « Mais tu sais, Ésaü, je fais confiance à Dieu. Prends ce plat de lentilles, je fais confiance à Dieu. Mon père a eu cette promesse. il va faire en sorte que ça va s'accomplir, il aurait pu faire cela, il ne l'a pas fait, il va le faire pour ses petits-enfants. Nous avons tous une possibilité d'être restaurés en Dieu, en Christ. Nous avons tous cette possibilité de faire ce que Dieu nous demande. Peut-être que Dieu nous a demandé quelque chose il y a un mois, 3 semaines, peut-être 6 mois, des années. Et peut-être qu'on n'a pas réussi à le faire. Peut-être ça a été un pardon, mais peut-être ça a été quelque chose commandé, dirigé par lui. On n'a pas réussi à le faire. Est-ce que aujourd'hui, maintenant, demain, après-demain, dans quelques temps, est-ce qu'on ne peut pas rentrer à nouveau en se disant « Mais Seigneur, c'est vrai, tu m'avais demandé de faire cela, je veux le faire, je veux le voir s'accomplir, je veux être participant de tes promesses et de ta bénédiction. » La fin de la vie de Jacob, je l'ai dit tout à l'heure, et c'est quand même une fin de vie qui nous enseigne sur notre manière d'être appuyé sur Jésus-Christ. C'est dans Hébreux 11, je le lis pour vous. « C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyé sur l'extrémité de son bâton. » Il y avait une blessure, une marque en lui. Alors qu'il va dire à Pharaon, « Les jours de ma vie ont été douloureux. Ça a été des jours difficiles. » Alors qu'il va dire cela à Pharaon, il va finir sa vie appuyé sur le bâton. Nous, on pourrait dire pour nous, c'est appuyé sur Christ. Appuyé sur Christ en l'adorant. Appuyé où on sait que notre vie sans Christ, quand bien même il y a des épreuves. Vous savez, on ne peut pas dire qu'on est appelé, que toute notre vie, il y aura ceci ou cela qui va se passer. On ne peut pas dire que Dieu va nous appeler à ne passer aucune épreuve. Vous comprenez, ça serait anti-biblique. On peut souffrir, on peut passer des années dans la souffrance. On peut être éprouvé, on peut avoir des difficultés. Je visitais une dame la dernière fois qui me racontait sa vie. Et elle m'a dit, mais toute ma vie, ça a été difficile. Toute ma vie, ça a été difficile. Mais quand bien même, est-ce que notre amour pour Christ n'est pas supérieur à ce que l'on peut vivre, à ce que l'on peut ressentir? Et c'est ce que Jacob va faire. Mes jours ont été difficiles, mais je veux terminer. Et pour nous, bien sûr, il n'est pas question de fin. Il n'est pas question de dire, mais voilà, ça va être ainsi. C'est pas question de fatalisme, mais c'est question de dire, mais peu importe ce qui arrive. Parce que je comprends la valeur de mon droit d'aînesse, je comprends la valeur de Christ, je comprends que c'est lui qui est l'essentiel, le supérieur, c'est lui qui me permet, qui me donne la vie. Moi, ma vie, je veux la passer appuyée sur la croix en adorant, basée sur la parole de Dieu. J'avais noté d'autres choses, mais on va s'arrêter là. Et je vous invite à prier un instant si vous le voulez bien. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te bénir. Te bénir pour ta parole, pour les promesses qu'il y a pour tes enfants. Nous sommes tes enfants ce soir. Nous voulons, Seigneur, nous saisir de cette bénédiction que tu veux nous donner. Nous saisir que nous ne sommes pas appelés à être esclaves, mais nous sommes appelés à être libres. Nous sommes appelés à être héritiers, co-héritiers avec Christ. Nous voulons nous saisir que tu veux nous bénir, nous amener à contempler ta gloire, à nous saisir de ce que tu as peut-être voulu nous dire il y a de ça des années, des mois, des semaines, quelques jours en arrière. Peut-être des choses que nous avons mis de côté. Nous voulons nous rappeler que tu peux encore nous combler par ta parole, tu peux encore nous aider à mettre en œuvre dans notre vie ce que tu nous demandes pour ta gloire. Tu peux encore nous amener à contempler ce droit et à saisir que nous sommes appelés à tellement plus avec toi. Nous ne voulons pas te limiter, nous ne voulons pas bafouer tes promesses, tes bénédictions, mais nous voulons proclamer que peu importe ce qui va arriver dans notre vie, nous sommes à toi, tu es en nous et nous voulons t'honorer et faire la différence dans ce monde. Merci de nous aider à saisir la valeur de ton sacrifice, la valeur pour notre vie, dans notre vie, afin que nous puissions aller bénir les pharaons, les personnes qui se prennent pour des rois, à bénir ceux qui se sentent tellement, qui pensent qu'ils sont tellement élevés, mais qui au final sont dans les ténèbres, à aller donner cette vie qui émane de toi à tous ceux qui sont dans la mort, mon Dieu. Aide-nous, bénis nos familles, merci de nous aider à donner, à rendre ce bon témoignage. Merci Père pour tout ce que tu fais, tout ce que tu accomplis, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.